Journal présenté par Antoine Marette. Bonsoir.
Bonsoir. Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire sur Michel Mercier, l'ancien ministre de la Justice, membre du Conseil constitutionnel, et soupçonné d'avoir fourni des emplois fictifs, présumés fictifs, à deux de ses filles. Dans l'actualité internationale au Venezuela, le principal opposant à Nicolas Maduro est sorti de prison. Antonio Ledezma est désormais placé en résidence surveillée. Nous nous intéresserons à la présidentielle au Rwanda, forte participation pour ce scrutin, dont le président sortant Paul Kagame est favori. 18h15, Mélanie Chalandon pour du grain à moudre d'été.
Eh bien, nous reviendrons sur les premiers pas de la nouvelle Assemblée nationale, avec une majorité de députés novices, une opposition éclatée et un président qui veut du résultat. En quoi la nouvelle donne politique bouscule-t-elle le travail parlementaire? Nous en discuterons avec nos invités, Manon Rescan, journaliste au Monde, en charge du suivi du Parlement, Stéphane Rosès, politologue, Pierre Mathieu, professeur de sciences politiques, et Ludovic Piétenu, chef du service politique de la rédaction de France Culture.
A tout à l'heure dans 14 minutes. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur Michel Mercier. L'ancien ministre de la Justice est soupçonné d'avoir fourni des emplois présumés fictifs à deux de ses filles. Le sénateur MoDem du Rhône est également membre du Conseil constitutionnel depuis le 2 août. Bonjour Hélène Malka.
Bonjour Antoine.
Vous vous trouvez au Sénat où les policiers ont tenté de venir enquêter ce matin, mais le président du Sénat, Gérard Larcher, leur a tout simplement refusé l'entrée.
Oui, le président du Sénat, Gérard Larcher, a effectivement refusé cette perquisition ce matin. Il estime que la demande était trop floue, pas assez précise. Alors, était-ce un moyen d'empêcher le bon déroulement de l'enquête? On peut évidemment se poser la question. La présidence du Sénat assure que non. Pour Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains, il s'agit vraiment d'un problème de forme et pas de fond. On l'écoute.
Doute que ce soit sur le fond, c'est peut-être sur la manière, sur l'échange, parce que il y a eu un souci ou un problème dans l'échange entre le PNF et la présidence du Sénat. Mais c'est pas sur le fond, parce que des perquisitions au Sénat, malheureusement ou heureusement, il y en a déjà eu beaucoup. Sur l'affaire des assistants parlementaires de François Fillon, par exemple, il y avait eu une perquisition ici, à la GAS et dans certains bureaux. Il y en a eu d'autres, donc Gérard Larcher était connu pour être assez proche de François Fillon et la perquisition a été autorisée, donc il n'y a pas de raison.
Alors aujourd'hui, Gérard Larcher a transmis à la justice les documents qu'elle demande. L'opposition de gauche ne l'accuse pas de faire obstruction aux enquêteurs. Elle n'a pas d'éléments pour cela. Mais pour le sénateur PS Jean-Yves Lecomte, il est urgent que le parquet national financier devienne plus indépendant. On l'écoute.
Il n'est pas assez pour le moment. Il faudrait construire complètement, comme ça a été discuté dans la réforme constitutionnelle de 2013, ici au Sénat, que nous avons voté, qui a été voté ensuite à l'Assemblée nationale, mais qu'il faudrait faire passer par le Congrès. Et à ce moment-là, le Conseil supérieur de la magistrature serait totalement indépendant du pouvoir exécutif.
Et précisons que concernant l'affaire Michel Mercier, donc l'enquête a été ouverte par le PNF pour détournement de fonds publics.
Merci à vous Ilan Malka, merci également à Laurent Macchetti à la technique. Les juges ont terminé leur enquête sur Serge Dassault dans l'affaire des achats de votes à Corbeil-Essonne. Le sénateur et milliardaire ex-maire LR de la ville a été mis en examen. Les magistrats soupçonnent la mise en place d'un système structuré pyramidal passant par des grands frères des cités qui auraient eu pour mission d'aller convaincre les électeurs d'aller voter pour le successeur de Serge Dassault. 18h03 sur France Culture, c'est sans doute le principal opposant au régime vénézuélien de Nicolas Maduro. Le maire de Caracas, Antonio Ledezma, est sorti de prison ce matin. Il avait été incarcéré il y a 3 jours. Le voilà désormais placé en résidence surveillée. C'est son épouse qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Bonsoir Marina Capitaine.
Bonsoir.
C'est l'Assemblée constituante, élue dimanche dernier, qui focalise l'attention. Et dans le monde entier, des voix commencent à s'élever.
Des voix contre les méthodes du pouvoir face à l'opposition, que ce soit l'opposition politique ou celle des civils. Des experts de l'ONU appellent aujourd'hui Caracas à mettre un terme, je cite, aux détentions systématiques de manifestants et à cesser de traduire les civils devant des tribunaux militaires. Ils estiment qu'au moins 400 manifestants auraient été traduits devant de tels tribunaux depuis le mois d'avril, souvent sans pouvoir communiquer avec leur famille ou leur avocat avant d'être déférés. Il y a quelques minutes, également, le gouvernement panaméen a annoncé avoir accordé accordé l'asile politique à deux magistrats de la Cour suprême parallèle formée au Venezuela par les opposants à Maduro, deux magistrats qui se disaient menacés et persécutés. Le gouvernement français a relayé aujourd'hui un appel européen à la désescalade au Venezuela, à la reprise du dialogue et au respect des droits de l'homme. Le communiqué de l'Élysée stipule que l'arrestation de deux figures de l'opposition, dont le maire de Caracas libéré aujourd'hui, est un signal très négatif qui marque un nouveau palier dans la confrontation. Enfin, le Vatican a estimé aujourd'hui toujours que cette assemblée constituante devait être évitée ou suspendue, car selon lui, elle fomente un climat de tension et d'affrontement au lieu de favoriser la réconciliation et la paix.
Merci Marina Capitaine. La présidentielle au Rwanda, les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus de 3 heures maintenant. Le dépouillement a commencé. On devrait avoir les premiers résultats dans la soirée avant une proclamation officielle demain. La participation est élevée, environ 80%, malgré le suspense très relatif qui entoure ce scrutin. Le président sortant Paul Kagame est le grand favori. Bonsoir Marie-France Abastado.
Bonsoir.
Alors donc, c'est Paul Kagame qui est le favori de cette élection.
Oui, il n'a cessé de dire lui-même ces dernières semaines que ces élections étaient jouées d'avance. Mais les électeurs ont eu tout de même en théorie à départager entre 3 candidats à la présidence. De longues files de citoyens s'étaient donc formées ce matin avant l'ouverture des bureaux de scrutin. Le président Kagame, lui, s'est rendu voter vers 11h, heure locale, dans une école de Kigali. Au cours de cette courte campagne électorale de 3 semaines, le président sortant a donc affronté 2 concurrents, l'indépendant Philippe Mpayimana, ancien journaliste, et Frank Habineza, président du Green Party, seul parti d'opposition. C'est d'ailleurs la première fois depuis le génocide qu'un parti d'opposition a le droit de participer à une campagne présidentielle. Mais comme on le disait à l'instant, avant même que le décompte ne soit fait, on sait déjà que c'est Paul Kagame qui est assuré de la victoire. Aux dernières élections, en 2010, il avait obtenu 93% des voix et 95% en 2003. Ce sera donc son 3e septennat consécutif, 3e mandat autorisée par une modification de la Constitution en 2015, modification, elle, entérinée à 98,3% des voix.
Donc, 3 candidats en tout. Quels ont été les arguments des 2 probables perdants?
Eh bien, les 2 rivaux de Paul Kagame ont plaidé en faveur d'une plus grande ouverture politique, en particulier le président du Green Party, dont le vice-président a été assassiné en 2010 sans que l'affaire n'ait jamais été élucidée. De son côté, le président Paul Kagame a pu faire valoir la stabilité retrouvée depuis son accession au pouvoir, une croissance économique de 8% et une couverture santé qui s'applique à tous les Rwandais. Les bureaux de vote ont fermé à 15h, on le disait, mais les résultats complets devraient être connus demain.
Merci Marie-France Abastado. Mais où est donc passée Lucia, la femme du prix Nobel de la paix, Lucia Bo, décédée le 13 juillet dernier, a disparu. Pour l'avocat américain du couple, c'est le pouvoir chinois qui la détient. Il vient de porter plainte contre Pékin à l'ONU. Notre correspondante a joint 2 amis du couple, 2 militants des droits de l'homme à Shanghai. Reportage signé Angélique Forget.
La dernière fois que Hu Jia, militant pro-démocratie, a vu son ami Liu Xia, c'était sur une photo, celle diffusée par les autorités le 15 juillet dernier. On la voit disperser en mer les cendres de son mari. Depuis, plus rien, il ne supporte plus de ne pas savoir où elle est.
Au moment où je vous parle, je porte un t-shirt à l'effigie de Xia Bo et Liu Xia. On les voit côte à côte, amoureux. Pourquoi je porte ce t-shirt? Eh bien parce qu'il me manque profondément. Liu Xia Bo, tu nous manques. Liu Xia, ne lâche rien. On va se battre pour toi et pour que tu puisses partir loin d'ici.
Il salue l'action de l'avocat américain du couple qui a déposé plainte à l'ONU contre Pékin pour disparition de Liu Xia, mais il craint que cette action soit inutile dans l'immédiat.
Je ne suis pas de nature pessimiste ou désespérée, mais je pense que ça ne suffira pas pour libérer Liu Xia. C'est comme une guerre qu'on est en train de mener et on avance bataille après bataille.
Mo Xiaoping, avocat des droits de l'homme, lui aussi proche du couple, estime que le respect du droit chinois devrait suffire pour obtenir sa libération.
Liu Xia n'est pas une criminelle. Son seul crime serait d'être la femme de Liu Xiaobo. Selon la loi constitutionnelle chinoise et le droit pénal, il est interdit de violer sa liberté. Elle devrait avoir le droit aussi de s'installer à l'étranger.
Mais pour le pouvoir chinois, estime Hu Jia, la veuve de Liu Xiaobo est une menace.
Si les autorités laissent Liu Xia quitter le pays, elles savent qu'elle pourrait se rendre à Oslo pour récupérer le prix Nobel à la place de son défunt mari. Et ça, c'est ce que le pouvoir communiste ne veut absolument pas voir.
D'après les médecins qui ont entouré Liu Xiaobo, avant de partir, le prix Nobel de la paix aurait adressé ses derniers mots à son épouse. « Vis bien ».
L'inquiétude en Russie, 9 personnes sont toujours portées disparues après l'inondation d'une mine de diamants en Sibérie. L'accident s'est produit dans l'après-midi, 133 salariés ont été remontés sains et saufs, mais 9 manquent donc toujours à l'appel. Une centaine de secouristes a été dépêchée sur place.
Plus de 200 000 mètres cubes d'eau provenant d'une carrière abandonnée se sont déversés dans les galeries d'une mine de diamants, propriété du groupe russe Alrosa, en raison de la défaillance d'une station de pompage. Au moment de l'inondation, 142 mineurs travaillaient sous terre, mais l'intervention rapide d'une centaine d'hommes du ministère russe des situations d'urgence a permis d'éviter la catastrophe. À l'heure actuelle, les sauveteurs sont toujours à la recherche de 9 personnes portées disparues, mais toutes les autres ont pu être évacuées. 2 d'entre elles ont été hospitalisées pour des blessures légères. Sergueï Ivanov, le patron d'Alrosa, qui est aussi le premier producteur mondial de diamants, a confirmé que 133 personnes avaient été remontées et que leur vie n'était pas en danger. Les autorités sont déterminées à faire toute la lumière sur cet accident. La déclinaison locale du comité d'enquête, l'organe qui dépend du Kremlin et qui est chargé des principales enquêtes en Russie, a d'ores et déjà engagé des poursuites pour violation des normes de sécurité pour des travaux miniers. Pour l'heure, l'impact de cet accident sur les activités d'Alrosa est difficile à évaluer. La production de cette mine de diamants souterraine, baptisée Mir, qui en russe veut dire paix, représente 11% de la production totale du groupe, soit 1 million de tonnes de minerais par an. En déplacement en Sibérie, le président Vladimir Poutine a été informé de la situation.
Correspondance à Moscou signée Jean-Didier Revoin. Une amende record de 2,3 milliards d'euros vient d'être imposée à plusieurs entreprises minières indiennes pour des extractions illégales menées depuis 2001 dans l'est du pays. La Cour suprême a été plus loin que le réquisitoire public en demandant ainsi le remboursement de toute la valeur marchande des minerais de fer et de magnésium extraits. Beaucoup espèrent que cela forcera les compagnies à changer ces pratiques répandues dans le secteur minier indien. Reportage de Sébastien Farsi à New Delhi.
215 millions de tonnes, c'est la quantité estimée de minerais de fer et de magnésium qui a été extraite illégalement par ces entreprises dans le seul état de l'Odisha à l'est de l'Inde pendant 16 ans. Elles l'ont fait soit en retirant davantage que ce qui était permis, soit en creusant en dehors des zones autorisées. Il aura fallu 3 ans d'enquête publique, puis 3 autres de procédures judiciaires pour arriver à cette décision historique de la Cour suprême. Celle-ci demande le remboursement à l'État de toutes les sommes gagnées sur ce minerai, soit 2,3 milliards d'euros. Et elle interdit à ces entreprises, comme la réputée Tata Steel, d'opérer dans cette zone avant ce paiement. Vipul Mudgal est le directeur de l'ONG Common Cause à l'origine de la plainte.
Cette décision aura un effet dissuasif sur les grandes compagnies, car aujourd'hui en Inde, elles sous-traitent certaines de leurs opérations à de petites entreprises qui agissent sans scrupules en extrayant des minerais en dehors des zones attribuées, par exemple. Et quand vous accusez les grandes compagnies, elles affirment qu'elles ne sont pas au courant.
La Cour suprême a également demandé la création d'un comité pour révéler les conditions qui ont permis de tels excès afin de combattre dans d'autres États indiens cette pratique très répandue d'extraction illégale de minerais.
Les États-Unis font face à un nombre stupéfiant de fuites d'informations confidentielles. C'est ce que vient de déclarer le ministre américain de la Justice. Il a annoncé des poursuites visant 4 personnes dans le cadre d'une vaste enquête. 2,2 milliards de dollars pour la Chine et à peine moins pour les États-Unis. Les montants échangés sur le marché de l'art au premier semestre 2017, ces montants sont en hausse de 5,3%. À en croire le rapport d'Art Price, le leader mondial de la cotation d'art. Une tendance positive qui s'explique en partie par l'attractivité de l'art contemporain. Antoine Poitou.
Avec pour illustrer la bonne santé de ce secteur, la vente le 18 mai dernier à New York d'une œuvre de Jean-Michel Basquiat à 110 millions d'euros. Alors ça ne vaut pas le transfert de Neymar au PSG, mais cela place tout de même l'Américain dans le happy few des artistes du XXe siècle à franchir cette barre. Il rejoint dans la catégorie Picasso ou encore Warhol. Mais l'art contemporain n'explique pas tout, le contexte aussi a évolué. De 500 000 collectionneurs essentiellement occidentaux après-guerre, on est passé à près de 70 millions d'amateurs, d'acheteurs présents sur les 5 continents, comme l'explique le président fondateur d'Art Price, Thierry Herman.
Chacun a son mot à dire. L'Asie est arrivée de manière très forte, notamment la Chine. Bon, pourquoi aussi la Chine? La Chine a toujours été, depuis des milliers d'années, le grenier du monde de l'art, on l'oublie. Simplement, la Chine a eu 2 siècles d'absence, hein, entre la guerre de l'opium et le XXe siècle. Mais la Chine aujourd'hui a encore des réserves en art ancien colossales. Donc on a la Chine qui change complètement la donne et la diaspora chinoise qui achète massivement aussi en Europe et aux USA.
De nouveaux acteurs en devenir avec également le Proche, le Moyen-Orient, l'Afrique qui voit par exemple sa biennale de Dakar croître un peu plus chaque année et de nouvelles pratiques muséales par exemple qui ont entraîné une mutation du monde de l'art. Les visiteurs des expositions se comptent de plus en plus en millions et la France dans tout ça, eh bien... elle se fait distancer pour ce qui est des enchères en tous les cas. La France est 4e, loin derrière l'Angleterre, 3e. Pour vous donner un exemple, une seule belle vente à Londres équivaut à une année de chiffre d'affaires à Paris.
Demain, le soleil va dominer partout, sauf sur le quart sud-ouest du pays. Les températures vont rester fraîches au nord de la Loire, 18 à Brest, 23 à Paris, torrides au sud, 31 à Ajaccio, 37 à Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec Caroline Beneteau. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Sébastien Berriot.